Bienvenue chers abonnés de Websoninke, nous avons le plaisir aujourd'hui de relater l'histoire des guerriers soninkés qui ont accompagné Elhadj Omar Tall dans sa campagne de djihad. Omar Tall naquit vers 1796 dans la région de Podor, au Fouta Toro, dans l'actuel Sénégal, au sein d'une famille Peul Fulbe convertie à l'islam et membre de la confrérie Kadiriya. Il adhéra ensuite à la confrérie Tiyaniya, sa grande rivale, qui avait une interprétation différente de l'islam, avant de partir pour 20 années de voyage qui le menèrent en Arabie et en Afrique du Nord. Ayant fait son pèlerinage à la Mecque d'où son surnom Elhadj, il s'attira une grande popularité à son retour dans le Sahel musulman. De 1830 à 1838, il vécut dans l'Empire Peul de Sokoto où il se forma militairement. Revenu dans l'actuel Sénégal, il fut nommé grand calife de la confrérie Tiyaniya et il s'installa à Dinguiré, près de Diourbel. Vers 1852, il lança son djihad « Guerre sainte » en s'attaquant au peuple animiste de la vallée du Niger. La principale résistance à ce djihad fut le fait des Bambara des royaumes de Ségou et du Karta dans l'actuel Mali qui avaient réussi à échapper au précédent djihad Peul, celui de Sékou Amadou. Étant demeurés animistes, ils allaient donc pouvoir être vendus comme esclaves, but économique abrité derrière le paravent de l'islamisation. En 1856, Elhadj Omar prit Nioro, la capitale du Karta. En juillet 1857, il tenta d'enlever Médine, poste français très avancé situé sur le Haut-Sénégal, afin de s'ouvrir une voie vers le sud, mais, au grand soulagement des populations du Bas-Sénégal, il fut défait par les troupes françaises commandées par le colonel Louis Federbe. Il se replia alors vers le bassin du Niger et s'attaqua à Ségou, la principale cité Bambara, qui fut prise et pillée en 1861. Suivi d'une partie de son armée, le souverain Bambara trouva refuge au Massina où régnait le chef Peul Amadou Amadou, le petit-fils de Sékou Amadou. La rivalité religieuse confrérique Kadiriya Tiyaniya et économique, opposant les deux à Alpularen se transforma en guerre ouverte. Elhadj Omar l'emporta et conquit le Massina. En 1862, Amdalaï, la capitale d'Amadou Amadou fut prise. Le marabout Elhadj Omar Tall quitta le Fouta Toro et vient faire le siège de Woyitala pour déloger le roi insoumis Bambara nommé Bina Ali. Quand son armée arriva au bord du fleuve, il demanda aux populations de les faire traverser. Ces derniers refusèrent car il leur faut l'accord du roi Ali. Ils allèrent demander l'autorisation à Ali et ce dernier leur demanda l'identité des étrangers au bord du fleuve Niger Djoliba. Ils lui dirent que c'est un marabout avec un turban tout blanc et le Coran. Ali dit aux gens de ne pas leur faire traverser le fleuve. Depuis que Woyitala a été créé, aucun marabout n'a foulé son sol. Si c'est un musulman, il ne sera pas le bienvenu dans cette cité. Pendant 3 jours les armées de Elhadj Omar Tall restèrent de l'autre côté du fleuve sans pouvoir traverser. Quand la faim commença à les tenailler, Bafi Dembélé se leva et appela. Elhadj Omar Tall. Oui, répondit Elhadj Omar Tall. Depuis combien de jours sommes-nous ici? Demanda Bafi Dembélé. 3 jours, répondit Elhadj Omar Tall. Toi, tu possèdes le nom caché d'Allah et tu peux rester 40 jours sans manger, lui dit Bafi Dembélé. Allah t'a comblé de ses bienfaits. Nous autres ne sommes que des esclaves, des nobles, des griots, des soubalous pêcheurs et des taureaux d'eau. Quand nous étions au Fouta, nous cultivions les champs. Nous y cultivions du mil et le récoltions. Nos femmes en faisaient du couscous. Si Dieu a repris le nom qu'il t'avait révélé, dis-le nous avant que les personnes restées au Fouta ne cultivent nos champs, dit Bafi Dembélé. Comment un marabout ayant fait cet pèlerinage à la Mecque et qui a demandé la guerre sainte, Dieu ne lui aurait-il pas donné le secret de l'eau? Montre-nous quelque chose, sinon nous retournerons sur nos pas. Elhadj Omar se leva, fit une prière de 2 rakats. Il avait un bâton de djombin avec 5 gris-gris collés dessus. Il se leva, prit son bâton magique et frappa le fleuve de Woyitala 3 fois. Ensuite il enleva le turban blanc qui était sur sa tête et lança le pan vers la ville de l'autre côté du rivage. Le turban traversa le fleuve Djoliba et alla s'enrouler sur le mur de Woyitala. Il demanda à son armée de 36 000 hommes d'emprunter ce pont improvisé. Ils passèrent sur le turban blanc qui ne se mouilla point. L'armée s'attaqua à la muraille de Woyitala. À midi, la ville de Woyitala tomba. Elhadj Omar devint le chef de village de Woyitala, de même que l'imam de Woyitala. Quand la nuit vint, il fit 2 rakats et commença Salatul Fatiha. À ce moment Bina Ali était couché dans son palais à Woyitala. 70 gardes sont chargés de le veiller. Quand les gardes sortent de la suite du roi Ali, Elhadj Omar invoque son serpent à 12 têtes qui se meut sous terre et remplit la chambre de Ali. De tous côtés que Ali tourne la tête, il aperçoit une tête menaçante qui veut l'engloutir. Ali se leva et commença à crier de terreur dans sa chambre. Les 70 gardes se précipitèrent dans la chambre royale. Ils lui demandèrent ce qui se passe. Et Ali leur répondit que la chambre était remplie d'un serpent à 12 têtes. Ils inspectèrent la chambre mais ne virent point de serpent. Ils le rassurèrent en lui disant que rien ne peut l'atteindre alors que 70 gardes le veillent. Les gardes sortirent de la chambre royale. Il se recoucha encore et El-Hadjoumar invoqua encore et Dieu mit une grosse montagne suspendue par un fil de coton cardé. Et cette montagne qui descend inexorablement sur Ali. Et Ali sursauta en criant de terreur. Les gardes lui demandèrent ce qui se passe. Excédé, Ali leur dit qu'ils ne peuvent pas voir ce que lui voit. Il sauta sur son cheval sans mettre de selle puis traversa le fleuve sans prendre de pirogue. Ali arriva à Ségou Koura. Le roi de Ségou lui demanda ce qui lui arrive. « Sois le bienvenu, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Une armée me poursuit, » répondit Ali. « Reste, tant que je suis vivant, tu ne risqueras rien du tout, » le rassura le roi du Ségou. « Est-ce que Dieu est avec toi ici ?» demanda Ali. « Non, » répondit le roi de Ségou. « Celui qui me poursuit, il a Dieu avec lui, » lui dit Ali. Il me l'a montré et je l'ai vu hier soir. Toi, tu ne peux pas le combattre. Laisse-moi passer mon chemin. Ali passa Ségou et arriva à Soussangou Mademba. Ali demanda la demeure du roi. Ce dernier le reçut. Ils passèrent la journée et le soir, Ali demanda au roi, avant que la nuit ne tombe, j'ai une question. Est-ce que tu possèdes Dieu dans ta poche? Non, répondit le roi. Celui qui me poursuit, il a Dieu avec lui, lui dit Ali. Il me l'a montré et je l'ai vu hier soir. Toi, tu ne peux pas le combattre. Laisse-moi passer mon chemin. Ali passa son chemin et arriva à Diafarabé. Entre-temps, El-Hadjoumar conquit Oïtala. Après il vainquit Ségou et Soussangou Mademba. El-Hadjoumar continua la poursuite du roi déchu Ali jusqu'à Diafarabé. Ali dépassa Diafarabé. En ce temps, il n'y avait pas de localité à Mopti. Puis Ali vint à Saré Hamdalé. Ce jour-là, c'est Amadou Amadou qui régnait sur la ville de Hamdalé. Amadou Amadou possède 60 000 guerriers du Massina. Chaque lance qu'il possède est munie de 12 dents acérées. Les gens du Massina appellent ce type de lance Yata Artaïn. Quand il la plante dans la fesse de la victime, il déverse sur la plaie du jus de cola et de tabac à mâcher en lui donnant des feuilles de tafé. El-Hadjoumar et son armée descendirent à Diafarabé. Il dit aux 3 x 12 000 hommes de prendre un bain rituel dans le fleuve Djoliba. Chaque combattant se lava et prit un bain rituel et des ablutions. Il leur demanda de prier 2 rakats. Il leur demanda également que chaque personne se couche sur son côté droit quand elle dort. Il leur demanda de se coucher face à l'est. Et le lendemain que chaque homme vienne lui raconter son rêve. Toute l'armée dormit à poing fermé. Au lever du jour, on se met à demander aux uns et aux autres ce sur quoi ils ont rêvé. Les uns disent qu'ils rêvaient avoir pris un cheval, d'autres qu'ils étaient dans le fleuve. Quand son neveu Tidiani Tal fit la prière de 10 heures, il prit son petit déjeuner. Son oncle El-Hadjoumar lui demanda le contenu de son rêve. « Ce dont j'ai rêvé est très compliqué, mon père, » dit Tidiani Tal. « J'ai rêvé que celui qui pourra voir Hamdalaï et porter ton message doit avoir gardé 3 jours ses ablutions. » On commença à demander à tous les combattants celui qui a gardé 3 jours d'ablution. Mais personne ne peut garder normalement des ablutions 3 jours d'affilée. On demanda à Bafi Dembélé s'il a gardé des ablutions sur 3 jours. 3 jours d'ablution, demanda Bafi Dembélé. Oui, répondit El-Hadjoumar Tal. Si tu m'avais demandé qui a caressé les fesses d'une femme pendant ces 3 jours, je pense que tu aurais trouvé des gens. Mais me demander si j'ai gardé des ablutions pendant 3 jours, c'est comme m'insulter. Bafi Dembélé dit, je suis un esclave, je possède 30 gourdins percés autour de ma taille. Le pantalon bouffant que je porte mesure 100 coudées de tissu. Si quelqu'un outrepasse, appelle-moi et je vais le corriger. Tes histoires d'ablution ne me regardent pas. Si je n'étais pas avec toi, je ne poserais pas mon front par terre. Tidiani qui était assis dit à son oncle, « Père, je garde mes ablutions d'un vendredi à un autre sans interruption. Le sommeil altère les ablutions et je ne ferme pas les yeux. Je n'ai pas regardé avec insistance une femme d'autrui. L'éclat de rire altère les ablutions, je ne ris pas aux éclats. Marcher pieds nus rend caduque les ablutions, je ne marche jamais pieds nus. Les mauvaises paroles altèrent les ablutions et je ne profère pas de mauvaises paroles. Si je ne mange pas, j'ai toujours un cure-dent dans la bouche. » Tidiani entra à Hamdalé sans saluer qui que ce soit. Amadou demanda aux gens du Massina de saluer l'étranger. Les gens dirent qu'ils ne vont pas le saluer car l'étranger est venu sans saluer qui que ce soit. Amadou leur répondit que l'étranger a déjà salué dès l'entrée de Hamdalé et je l'ai répondu. Ils ne voulurent pas le saluer. Amadou dit à Tidiani, « Bienvenue ». Tidiani dit à Amadou, « L'almami du Massina, je suis venu en paix. Nous avons poursuivi une pintade depuis Oïtala. C'est une pintade fatiguée par la fuite. Si elle est là, donne-la-moi et que je la ramène à mon père El-Hadjoumar. Votre pintade s'est réfugiée ici à Hamdalé. Dieu a rendu l'asile sacré. Va voir ton père, il a étudié comme moi les livres saints. Il sait à quel point Dieu a rendu sacré les demandeurs d'asile. Je ne peux pas vous le donner car cela contredit la voix de Dieu. Si vous voulez que je le convertisse à l'islam, je le convertirai. Si vous voulez que je le tue, je le ferai. Mais je ne vous le remettrai jamais. Parce qu'il est venu ici au Massina en réfugié. Si tu poursuis une pintade et que cette dernière se réfugie dans les fourrés et que tu ne parviens pas à remettre la main dessus, que feras-tu ? Demanda Tidiani à Amadou Amadou. Si tu n'arrives pas à déloger une pintade réfugiée dans les fourrés, on y met le feu pour le faire sortir, répondit Amadou Amadou. Garde cela dans ton esprit, lui fit remarquer Tidiani. Le feu se propage dans quoi ? Demanda Amadou Amadou. Le feu se propage dans l'herbe sèche, répondit Tidiani. Gardez cela dans vos esprits. Amdalé est de l'herbe verte, aucun feu ne peut le consumer, répondit avec courroux Amadou Amadou. Tidiani retourna bredouille et en colère. Quand il arriva à Diafarabé, il dit, « Père, El Hadj Oumar lui dit de se taire car il a entendu tout l'échange entre lui et Amadou Amadou. » Il fit sa prière et se mit à descendre « Salatul Fatiha ». La nuit, il vit le génie Rouen qui lui divulgua que le secret de la protection mystique de Amdalé. Le secret de Amdalé se trouvait dans le ventre d'un crocodile. Ce crocodile se trouve dans une mare à côté des murailles de Amdalé. Il faudra attraper ce crocodile, extraire l'œuf qui est dans son ventre. Après il faudra casser cet œuf et libérer l'oiseau qui est dedans et le laisser voler. Tant qu'ils ne libéreront pas cet oiseau, ils ne pourront jamais combattre Amdalé. El Hadj Oumar demanda aux 36 000 combattants qui seraient capables d'aller lui ramener le crocodile sacré de la mare de Amdalé. Personne ne se porta volontaire sauf Bafi Dembélé. Il prit le chemin de Amdalé et trouva 100 combattants du Massina veillés sur le gros reptile en train de se réchauffer au soleil. Le crocodile avait pour habitude de sortir tous les matins capter les rayons de soleil matinaux et se réchauffer et après retourner dans la mare. Chaque jour, 100 hommes de Amdalé protègent le reptile pendant ce moment où il est vulnérable. Tous les jours, les gens de Amdalé viennent protéger le crocodile. Bafi Dembélé trouva les 100 combattants du Massina au bord de la mare. Il leur demanda, « Que faites-vous au bord de cette mare ?»« Nous protégeons ce crocodile le temps qu'il finisse de se réchauffer. Et toi que viens-tu faire ici ?» demanda les 100 combattants. Bafi Dembélé leur répondit, « Je suis venu prendre ce crocodile. Je suis dans l'armée de El Hadj Oumar et je suis un esclave. Depuis que je suis dans son armée, nous avons vaincu 30 villages. J'ai assuré toutes les missions qu'il m'a confiées. Préparez-vous, je vais amener votre crocodile à Diafarabé. Comment tu t'appelles ? » demandèrent les combattants de Amdalé. Je suis celui qu'on appelle Segui Kolonio Gomera Moussa Bafi Tiakito. Les 100 hommes n'arrivèrent pas à bien prononcer ce nom bizarre. Bafi Dembélé saisit le crocodile et le mit sur son épaule. Il prit un des 30 gourdins en ceinture autour de sa taille et se mit à bastonner les 100 combattants du Massina. Bafi Dembélé est parti avec le crocodile de Amdalé. À cause du déshonneur, les 100 gardes remplirent leurs pantalons bouffants de pierre et se jetèrent dans le fleuve pour se noyer. Ils se dirent qu'ils ne peuvent pas retourner au Massina et raconter qu'un seul homme est venu à bout de 100 guerriers. Bafi Dembélé arriva avec le crocodile à Diafarabé. Ils déchirèrent son ventre et en sortirent l'œuf. Ils cassèrent l'œuf et un héron en sortit et vola se poser sur l'arbre sacré de Amdalé. Et le sol se mit à trembler. Amadou demanda aux gens de Massina, « Connaissez-vous cet oiseau ?»«
Non. »
répondirent les personnes présentes à ses côtés. Cet oiseau est le héron qui était dans l'œuf caché dans le ventre du crocodile de la mare de Amdalé. Bafi Dembélé, l'esclave de El Hadj Oumar est parti kidnapper le crocodile ce matin, expliqua Amadou aux gens du Massina. Je cherche 12 hommes pour aller voir les marabouts de Kounté. C'est leur grand-père Cheikh Mamadou Kabir qui est resté en dévotion sur sa natte pendant 40 ans sans bouger. Amadou écrivit une lettre et la remit au chef des 12 hommes en route vers Kounté. Les petits-fils de Cheikh Mamadou Kabir de Kounté reposèrent les chapelets et se mirent à descendre Salatul Fatiha pour attirer le serpent de El Hadj Oumar. Les petits-fils de Cheikh Mamadou Kabir appelèrent le serpent de El Hadj Oumar. Le serpent sortit les 12 têtes une à une. Ils coupèrent les 12 têtes du serpent. Ils dirent aux messagers de Amadou de retourner au Massina et de lui dire qu'ils ont coupé les 12 têtes du serpent de El Hadj Oumar. Bafi Dembélé arrêta sa prière et prit un tambour et se mit à frapper dessus. Il demanda à tous les esclaves d'arrêter la prière et de le suivre. Arrivé en face de El Hadj Oumar, il dit, « Si tu as une preuve tangible, c'est le moment de nous la montrer. Le monde ne peut pas exister entre Allahu Akbar et Assalamu Alaikum. Si ce que tu dis est vrai, nous voulons que le soleil se lève à l'est et que Massina reste dans la nuit. » El Hadj Oumar invoqua Dieu et le soleil se leva à l'est en pleine nuit. Il demanda à ses combattants de sortir de Amdalé et de prendre la direction du soleil. Les gens du Massina les suivirent jusqu'à un endroit qu'on appelle Manu Manu. Ils s'arrêtèrent pour se reposer. El Hadj Oumar demanda à Komaka Magassa de scruter les alentours pour trouver un point d'eau. Il chercha jusqu'à ce qu'il trouva une mare gardée par les gens de Amdalé. Komaka Magassa est un soninké d'origine Kagoro. Il s'est converti au Nyoro quand El Adumar est venu voir le marabout du Nyoro, Diumu Kaba. À ce moment, 100 personnes Tukagoro ont trahi El Adumar. Komaka Magasa se joignit au marabout en remplacement des 100 Kagoros qui ont trahi. On l'appelle Komaka Magasa et son surnom est Diufon Tunkara, Diufon Lamina. On dit Makan Tunkara, Makan Fofana, Makan Kamara, Makan Diukadiu. Ces noms de famille sont des Kagoro d'origine. El Adumar demanda à Komaka Magasa de scruter les alentours pour trouver un point d'eau. Il chercha jusqu'à ce qu'il trouva une mare gardée par les gens de Hamdalay. Il les salua. « D'où venez-vous ? » leur demanda Komaka Magasa. « Nous venons de Saré Hamdalay, » lui répondirent les gens du Massina. « Que faites-vous ici ? » leur demanda Komaka. « C'est Sheku Amadou qui nous demanda de garder cette mare afin que les gens du Fouta ne puissent s'abreuver. « Tu es qui d'abord ?» demandèrent les gardiens. « Je m'appelle Komaka Magasa Diufon Tunkara, Diufon Lamina et je suis avec El Adumar. Depuis Kagorotan jusqu'ici, dès qu'il y a 100 combattants, il fait appel à moi pour les capturer. Tenez-vous prêts ? S'il plaît à Dieu, je remplirai cette outre dans la mare et je l'amènerai à El Adumar afin qu'il fasse ses ablutions. » Komaka Magasa descendit du cheval, alla jusqu'à la mare et remplit son outre. Puis il l'attacha solidement à la selle de son cheval. Il mit son pied droit dans l'étrier et avant que le gauche ne soit sur le cheval, les 100 gardiens de la mare firent feu sur lui. Quand la fumée de la poudre s'estompa, il fit tomber les balles échouées sur son selle. Komaka Magasa chevaucha sa monture et vint donner l'outre rempli d'eau à El Adumar puis retourna à la mare du Massina. Il les bastonna et ils prirent leurs jambes à leur cou. Il les pourchassa jusqu'à ce qu'ils rentrèrent dans la cité de Hamdalay. Puis Sheku Amadou envoya un messager à El Adumar afin de lui signifier que la terre du Massina lui appartient. Sheku Amadou demanda à son messager de dire à El Adumar que demain, il mettra au pied de chaque arbre 1000 guerriers et qu'il sache avec certitude qu'il ne passera pas la journée sur la terre du Massina. Cette terre sera pour lui un lit et une couverture. Que El Adumar sache que le ciel appartient à Dieu, mais que la terre du Massina est pour Amadou. Quand la nuit étale sa toile noire sur la savane et que les hommes se réunissaient à la veille des combats, on voyait trembler les hommes qui sont destinés à faire de grandes choses. Tandis que ceux qui sont destinés à périr le lendemain, on les trouvait en train de dormir les poings fermés, les griots sont en train de jouer poilly. Les hyènes sont en train de rôder, impatientes de dévorer les hommes morts au combat, les grands vautours attirés par l'air grave de poillé se mirent à planer au-dessus de la savane contents de trouver des milliers de charognes humaines. Mais avant qu'ils ne dévorent les yeux des hommes morts au combat, les hyènes et les vautours auscultent les défunts afin de voir par quel côté la balle est entrée, ils ne les dévorent que si la balle est entrée par la poitrine. Ces charognards ne dévorent pas les combattants qui désertent et qui ne sont arrêtés que par la balle qui les a atteints par le dos. Les griots passèrent une bonne partie de la nuit à jouer poillé pour les combattants. Au lever du jour, Amadou Amalabo plaça 10 000 combattants au pied de chaque arbre. C'est un marabout aussi prédestiné que El Adumar. Il portait à la naissance sur sa poitrine la marque de la lune et de Sirius. Quand les armées se mirent en branle, les hyènes et les chacals les suivirent à la trace. Les vautours se mirent à planer au-dessus de leur tête. Ils arrivèrent à la grande plaine d'un endroit appelé Manu Manu. Les gens du Massina possédaient des lances à 12 dents polies et aussi étincelantes que l'argent. Les boues sont tellement pointues qu'elles sont capables d'extraire une épine de leur pied. Assis chacun sur un cheval, la bouche pleine de cola et de tabac à mâcher, ils pointèrent les pointes de leurs lances vers le ciel. Ils sont vêtus d'une tenue guerrière qu'on appelle Kasa d'Oroke. Les gens du Fouta autour d'El Adumar les contemplèrent. Un homme dit, « El Adumar, oui ?» répondit El Adumar. « Depuis une semaine que nous sommes ici affamés, voici un champ de 1000 prêts à être récolté, » dit l'homme. « Il est où ce champ ?» demanda El Adumar. « Le champ tout blanc devant nous ?» rétorqua l'homme. « Tout ce que tu vois, ce sont les lances du Massina qu'on appelle Gawale. Ce sont leurs pointes acérées et polies qui brillent sous le soleil, » lui expliqua El Adumar. « Si tous ces points lumineux sont des lances, nous ne sommes pas capables de les affronter, » répondit l'homme désespéré. Dieu possède des créatures aussi nombreuses et robustes que ces hommes avec des lances, le tranquillisa El Adumar. L'homme leva la tête et contempla. Il aperçut une nuée de créatures ailées au firmament. Les raconteurs affirmèrent que El Adumar fut secouru par une armée venue du ciel. L'homme choqué par cette vision céleste, resta toute la journée la tête en l'air et la bouche bée. Le combat s'engagea et fut rude. La poudre empesta la savane jusqu'au crépuscule. Devant la gravité de la situation militaire à Manu Manu, El Adumar dit à ses troupes, « Je n'autorise personne à lever la tête pour voir ce qui ne doit pas être observé jusqu'au coucher du soleil. N'ayez aucune crainte de des troupes en face. Placez votre confiance en Dieu et en sa grandeur. Moi El Adumar, j'ai demandé à Dieu de m'accorder la permission de faire la guerre sainte. Toute personne morte dans cette guerre ouvrira ses yeux au paradis. Je suis ici pour convertir les mécréants. Après ce discours, Bafi Dembélé alla trouver El Hadj Oumar, Eliman Siré Samba Demba Al-Mokhtar, l'homme de Hamdallé, de Woyitala, de Dinguiré, de Cognacari, de Yélimané, de la Mecque et de Médine, à toi ce bas monde et l'au-delà, je te demande de prier le Seigneur afin qu'il me montre ce que j'ai avancé pour moi. Je voudrais connaître la récompense de mes actes tout au long de ces guerres saintes. J'aimerais les voir avant de mourir car je ne pense pas vivre et voir un autre lever du jour. Prends une petite calebasse. Connais-tu une mare ? Dit El Hadj Oumar. Oui, répondit Bafi Dembélé. Va le remplir d'eau dans cette mare et viens me relater ce que tu verras, lui dit El Hadj Oumar. Bafi Dembélé prit le chemin menant à la mare. Il trouva que la mare s'était tarie et devenue sèche. Là où il y avait de l'eau, l'herbe verte avait poussé à la place. Bafi Dembélé trouva deux femmes assises au bord de la mare asséchée. Ces deux femmes étaient d'une beauté à troubler le repos d'un mort. Leur peau était aussi douce et soyeuse que la caresse du zéphyr au crépuscule. Elles avaient de très beaux yeux qui hypnotisaient les malheureux qui croisaient leurs regards. Elles possédaient en matière de beauté les caractéristiques des trois traits blancs et des trois traits noirs. Bafi Dembélé les salua mais n'obtint aucune réponse de la part des deux femmes assises au bord de la mare. Il les salua trois fois de suite sans résultat. « Pourquoi vous ne me répondez pas ? Rendre un salut n'a jamais écorché une bouche. Même la religion permet à la femme d'autrui de rendre un salut, » dit Bafi Dembélé. « Moi je vous ai salué parce que vous êtes des étrangères. Ne nous fatiguez pas, chers inconnus. Nous ne pouvons pas échanger avec des inconnus. Nous sommes les épouses de Bafi Dembélé. Il combat dans l'armée de El Hadj Oumar. Il va mourir aujourd'hui dans la bataille de Manou Manou. Nous sommes ces femmes du paradis. Nous sommes venus prendre un bain rituel dans cette mare pour préparer sa venue dans l'au-delà. Nous ne vous parlerons plus, chers inconnus, » dirent les deux femmes assises au bord de la mare de Manou Manou. Bafi Dembélé retourna sur ses pas et vint retrouver El Hadj Oumar. « Je suis parti à la mare de Manou Manou, » dit Bafi Dembélé. « Qu'as-tu vu ?» demanda El Hadj Oumar. « Avant de te dire ce que j'ai vu au bord de la mare, je te demande une précision. Depuis Fouta jusqu'au Massina, qui s'appelle Bafi Dembélé, il n'y a qu'un seul et unique Bafi Dembélé, » répondit El Hadj Oumar. « J'ai vu au bord de la mare, deux superbes créatures qui disent que leur mari s'appelle Bafi Dembélé qui va mourir aujourd'hui, » dit Bafi Dembélé. Les femmes que tu as aperçues au bord de la mare de Manou Manou sont les épouses paradisiaques que Dieu t'a réservées en récompense de tes efforts dans la guerre sainte, lui expliqua El Hadj Oumar. Ce ne sont que les aperçus de tout ce qui t'attend au jardin d'Éden. Il déposa par terre les 12 reliques sacrées qu'il porte toujours sur lui. Il déposa également les 30 gourdins qu'il portait autour de sa taille. Ce jour-là, il portait son pantalon bouffant de 100 coudées. Il ne conserva que son grand poignard. Il est là le meilleur combattant de Amadou qui s'appelait Yarunga Tamura. Les deux hommes se mirent à danser sous l'air macabre de Poyé. « Qui es-tu ? » demanda Bafi Dembélé. « C'est moi qu'on appelle Yarunga Tamura. Je suis un esclave, je ne tisse pas et je ne fréquente pas les tisserands. Je suis avec le marabout Amadou Amadou depuis le début. Je mange ce qu'il mange, je bois ce qu'il boit. Tout seul je peux mettre en fuite 1000 hommes armés. Je possède la hache sacrée. C'est moi qui suis le détenteur de la terrible lance aux 12 dents recourbées. Vêtu du complet d'Anna, je suis à la tête de l'armée de 100 000 hommes. Je suis à la recherche d'un comme toi qui est comme moi, pour mourir ensemble. Et toi, je me nomme Bafi Dembélé Sekolo Nyogomera Moussa Bafi Tiakito. Je suis avec El Hadj Oumar. C'est lui qui a accompli 7 fois le pèlerinage à la Mecque. Dieu lui donna la guerre sainte. Il possède le sabre pourfendeur des mécréants. Je possède un bonnet orné de 3 miroirs magiques. Comme toi, j'étais à la recherche d'un homme qui me ressemble afin qu'on meure ensemble. Les deux armées regardèrent les deux hommes danser sous l'air macabre de Poyé. Les hyènes se mirent en embuscade des hommes qui vont bientôt mourir à Manou Manou. Les vautours commencèrent eux aussi à planer au-dessus de la plaine de Dégambéré. Bafi Dembélé et Yarunga Tamura se mirent à danser leur oraison funèbre au son de l'air guerrier. Les armées du Massina et du Fouta regardèrent l'ultime danse macabre de Manou Manou. Et les deux hommes dansent vers la mort.